ça sur l'actualité du 22 mai 2026, enregistré le 28 mai 2026. Mettons que j'ai une petite ratée de ce côté-là. Par ailleurs, les nouvelles qui ont été retenues la semaine dernière demeurent d'une très grande pertinence à vous partager. Donc, je maintiens l'enregistrement malgré ma tardivité dans l'enregistrement de celui-ci. Les choses étant que, mettons que j'ai certaines considérations que je veux atteindre un certain degré, dans tout cas, bref, certaines préoccupations que j'ai, qui fait que là, j'ai décidé d'enregistrer en qualité dégradée parce que je suis pas avec mes équipements standards pour arriver à livrer ça. C'est peut-être d'ailleurs l'approche que je vais prendre à l'avenir au lieu d'attendre le moment parfait, qui est un peu la façon que je fonctionne normalement, à aller vers une façon plus souple, disons ça comme ça, qui me permettrait de peut-être moins attendre et moins figer sur les 10 enregistrements pour être un peu plus dans les temps essentiellement. Bref, Shameless Blog, 3 au 5 juin, le stick, c'est la semaine prochaine. J'ai très hâte, c'est mon premier stick à vie. Donc pour moi, c'est une. J'anticipe ça avec beaucoup d'enthousiasme de participer à cet événement-là, de voir ce qu'il y en est. Autant j'ai beaucoup apprécié le BotConf, qui était aussi une première pour moi en sol européen, mais la même chose pour le stick. En plus que j'ai eu des rencontres très intéressantes au Nordic, que probablement des gens que je vais recroiser aussi. Fait que merveilleux, j'ai énormément d'enthousiasme. J'ai très très hâte à tout ça. 24 au 25 juin Troopers, 26-27 juin le Hack à Paris. Ces deux événements-là, il n'est pas sûr que je vais aller. J'attends de voir comment ça va se passer dans la situation géopolitique. À l'heure actuelle, les prix d'avion sont un peu fous. De un et de deux, le problème, puis ça j'avais parlé à un de mes amis en gestion de crise, c'est que s'il n'y a plus de carburant pour les avions, il n'y aura plus de vol tout court, fait que je ne veux pas être non plus pris loin de chez moi en les circonstances. Moi, il y a des réflexions à avoir de ce côté-là, mais j'aimerais vraiment pouvoir y aller et justement, en tout cas surtout Troopers, à laquelle je n'ai jamais connu, puis j'ai beaucoup aimé mon expérience à Le Hack l'an dernier, donc de répéter mon expérience cette année. Le 19 septembre, le B-Side, le 1 au 3 décembre, Incyber Canada, qui est à Ottawa cette année, et Secure 2027, le 24 et 25 février de l'année prochaine. J'ai remarqué quand j'ai fait mon horaire professionnel de mes formations, mais je me sens que je n'ai pas oublié, fait qu'il y aura d'autres dans les prochaines offres. Bref, comme ça, nouvelle, il y a comme toujours comme premier bloc. Premier sous-bloc, d'ailleurs, tout est dans le code. L'arrivée du AI est en train de modifier de façon profonde la façon qu'on trouve les bugs dans les codes. Notamment, Linus dit que oui, mais les mailing lists sont rendus incroyablement difficiles à gérer parce que le volume est grand. Et en même temps, tout dépendant de quel commentateur parle, c'est la qualité des soumissions est meilleure qu'elle a déjà été. Donc oui, ça l'augmente. Mais en même temps, c'est incertain. Puis d'autres mentionnent le fait que ça augmente la quantité de bugs non désirés. À ça, il y a un super article puis qui est très, très approfondi. Puis, afin que vous le lisez que dans le sort de ma bouche. Il parle justement comment les bugs maintenant sont traités et comment on doit. Comment ces gens-là, les gens qui font de l'open source, moi je fais juste du psychodage sur le side, rien de très sérieux. On va devoir aborder ces situations-là pour rester à flot, parce que sinon, ça va exploser, on va avoir trop de travail et on va se trouver avec une situation dans laquelle personne ne va gagner. Fait que, bref, il y a un paquet de réflexions à avoir là-dessus. Ça change énormément les paradigmes devant nos yeux, d'ailleurs. Le fait que aussi tous les bugs de sécurité sur Linux sont en train d'exploser, justement par ce genre de problème-là, c'est très grave parce que beaucoup de nos infrastructures s'appuient là-dessus. Au sens du bug bounty, au sens de l'âge, qui est un secteur particulier qui risque de s'éteindre ou en tout cas se modifier de façon profonde, notamment à l'heure actuelle, les primes qui sont payées sont en train d'être coupées de moitié. Donc, on voit qu'un changement très, très important sur la façon dont on aborde ce secteur-là, la façon que l'intelligence artificielle est en train d'avoir ses impacts très, très profonds. Ça va faire mal, ça va être inconfortable comme tous les changements. Je ne peux pas prévoir ce qui s'en vient puisque je ne suis pas un spécialiste. Puis je connais peu de gens dans le bug bounty, fait que j'ai un peu de misère à savoir qu'est-ce qu'il y en a et comment le AI vient modifier leur travail, comment ça change leurs choses. Donc, bref, mais c'est un changement très, très profond qu'il va y avoir et ça va instabiliser autant les professionnels qui travaillent là-dedans, autant les gens qui doivent corriger les systèmes. On va devoir avoir, en tout cas, bref, ça va être assez impressionnant. Autre sous-section, tout ce qui est BOM, le Bill of Material. Désolé pour mon piètre anglais. L'arrivée du AI BOM va modifier la façon qu'on aborde, comment les systèmes sont constitués. Autant on l'a eu au niveau logiciel, de par les chaînes d'approvisionnement, clairement, puis qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle, parce que clairement, toutes les dépendances qu'on a dans les logiciels ne sont pas claires. On n'a pas été capable de régler rien à ce stade. Donc, on est en train de développer la même chose pour l'intelligence artificielle, ce qui est une bonne chose qui va nous permettre justement de savoir qu'est-ce qui est en dessous, comment ça fonctionne. Puis d'ailleurs, c'est un énorme problème à l'heure actuelle d'œuvrer là-dedans quand on demande est-ce qu'un système d'intelligence artificielle peut être utilisé ou être fait de. En tout cas, peut être intégré dans un système, puis on a difficulté de retrouver toute la trace, qu'est-ce qui cache en arrière, quels modèles sont utilisés, comment ces modèles-là ont été entraînés, et ainsi de suite. Donc, d'avoir cette information-là va nous permettre d'avoir des analyses beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et de choisir les bons modèles selon l'usage qui est en fait. Je trouve ça intéressant de voir comment ça s'en vient. Donc, les articles qui abordent ça, si c'est un secteur qui vous intéresse à les voir, sont comme particulièrement intéressants. Dernière sous-section, les CTF. CTF, c'est intéressant parce que j'étais au NORSEC il n'y a pas si longtemps et on a eu la discussion sur l'usage du LLM dans le cadre de CTF. Le NORSEC a publié un premier article de blog, justement, qui est dans les show notes. Fait que je vous invite à aller le voir. Il est très intéressant avec beaucoup de statistiques, beaucoup d'éléments, et à quel point le LLM change un peu l'approche au CTF. J'avais, dans les années passées, parlé avec notamment Michael Nadeau, sur lequel on avait parlé comment on pouvait intégrer ça, les MCP et ainsi de suite, comment ça pouvait venir modifier l'approche au CTF. Mais c'est encore embryonnant dans les années où les outils de LLM est encore plus rudimentaires. Maintenant, ils se sont développés, donc on a beaucoup d'éléments complémentaires. Et une des choses qui était remarquée, notamment au CTF de NORSEC, c'est le fait que certains challenges se faisaient complètement faire au complet par le LLM en peu de temps. Et pour les designers de challenge, c'est très vexant, cette situation-là, parce que leur travail, l'énergie qu'on met dedans, et évaporer dans un temps record, puis c'est une machine. Donc, ça enlève aussi le plaisir de la réflexion du casse-tête pour proposer aux gens de participer. Donc, ça, puis le sondage mentionnait aussi juste une ambivalence de ce côté-là, à quel point c'était peu intéressant, mais il y aura beaucoup de réflexions de ce côté-là. Il y a le Hackfest qui s'en vient au Québec, où il y a un autre très gros CTF, et à voir comment eux vont aborder la situation. Va être intéressant de voir sur l'évolution, au moins au Québec, comment on aborde cette modification-là de choses. Et toute l'espèce de confrontation avec le fait que c'est une compétition, donc on veut gagner. Et tout le plaisir de résoudre des casse-têtes. Puis c'est un peu ça aussi qui s'est perdu dans la réflexion. Je ne sais pas comment on va être capable de combiner, parce que le plaisir de résoudre des casse-têtes, il est quand même très intéressant. C'est la seule et unique raison pourquoi je voudrais participer à un CTF. Pas parce que j'ai aucun talent là-dedans, là, particulier, puis je suis un peu je suis vieux et rouillé pour ça, mais juste le plaisir de se faire porter par une histoire et de résoudre des challenges en conséquence. Donc bref, c'est un peu ça. Et puis par ça, j'ai un article, une recherche justement qui regarde comment les agents peuvent opérer dans un contexte de CTF, dans un principe de sécurité offensive, à quel point ça peut servir et ça ne sert pas. C'est intéressant, c'est un article scientifique. J'en ai un, je n'ai pas eu d'autres, mais je les ai malheureusement pas pris en note, fait que je n'ai pas pu les rechercher sur d'autres, mais de regarder aussi comment la communauté scientifique fait des recherches justement sur l'effet de l'agent et comment ils vont jouer et à quel point c'est utile et ça n'est pas utile dans certains cas. Et comment on peut justement jouer avec ça et voir comment évoluer. Fait qu'il y aura, en tout cas, bref, quelque chose à regarder, mais il reste que pour moi, les CTF, c'est un jeu. Et si on fait si on délègue à la machine le plaisir de jouer, je pense qu'on rate un peu l'objectif de ce que le CTF peut faire. Puis, j'ai eu des conversations avec des amis sur le sujet, puis c'est beaucoup plus intéressant d'aller prendre quelques pintes avec des amis, puis essayer de résoudre des puzzles, que de laisser la machine tout casser et avancer. Mais bref, question de vision, question de choix, peut-être question d'incitatif aussi. Ça sera voir, chose très intéressante à voir comment l'intelligence artificielle va aussi avoir un impact sur ce modèle-là dans lequel on vit depuis longtemps. Bref, fin des sous-sections, section plus générale, un article sur le fait que OpenClaw va améliorer sa sécurité essentiellement par le rachat justement d'OpenClaw par une entité beaucoup plus sérieuse, mais sont en train de se structurer de façon normale, l'isolation et tout ça. Fait que c'est quand même bien de voir qu'ils vont mettre ça en ordre, mais en même temps, ben, c'est des systèmes qui sont encore très jeunes. Et comme tous ces systèmes jeunes-là, ben, ça a ces problèmes qu'on vit. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que faut être très, très prudent ce qu'on fait avec ce genre de choses-là. C'est très expérimental. Et pour les plus vieux, c'est des systèmes qui sont préqualifiés de alpha en termes de d'évolution. C'est même pas de qualité bêta, c'est vraiment de qualité alpha comme ça. Fait que, bref, parce qu'on on communique mal au grand public le fait que c'est des expérimentations qu'on fait. Mais je pense qu'on devrait plus faire le mettre de l'avant pour qu'on puisse jouer avec ces jouets-là qui sont très intéressants. Et c'est approcher ces technologies-là et de s'assurer que les gens ne se blessent pas parce que les safeguards standards ne sont pas encore présents et ne seront pas avant pendant plusieurs mois ou années, tout dépendant de la complexité à mettre en œuvre. Des signaux sonores peuvent tromper les systèmes de reconnaissance de la voix. Injectés, on est toujours dans un contexte où la machine n'est pas capable de distinguer le bon du mauvais ou le signal du contenu et ainsi de suite. Ça revient au fait que le cerveau humain a cette capacité de trier l'information sur la catégoriser son. Ce que le système IA n'est pas capable de faire. Donc, lui, il prend tout le flux d'informations. Dans ce cas-ci, le fait d'avoir le son, puis dans un système de reconnaissance de la voix. Donc, et il n'est pas capable de discriminer ce qui est intéressant et pas comme le cerveau humain qui avait discriminé de façon très, très importante dans une conversation, des choses comme ça. Juste de savoir qu'on est dans une foule, on est capable d'entendre la personne, de conversation avec une personne avec nous devant nous et que l'ensemble des gens parlent autour aussi, on est capable de discriminer. Fait que ça, c'est. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas encore rendue là. Puis on le voit aussi dans tout ce qui est de prompt injection, donc on est capable d'insérer dans du data des commandes et l'IA n'est pas encore à ce jour pas capable de distinguer, de différencier ça, ce que l'esprit humain est capable de faire. Je ne vois pas dans l'état des choses qu'on va être capable de faire prochainement. Mais on peut toujours être surpris, ça peut arriver, mais il faut être très, très prudent. Et ça revient sur un avertissement plus global que tout ce qu'on faut le input, tout ce qu'on met dans un système d'IA doit être préfiltré et propre parce qu'on peut ne pas savoir ce qui va se passer au bout de ça. Bref, les skills dans les modèles IA pour la sécurité offensive, c'est très intéressant. Puis ça ramène un peu aussi au CTF, mais dans ce cas, c'est plus global, plus à la sécurité offensive pour les pentesters. L'ajout de skill n'ajoute pas vraiment grand-chose. C'est intéressant parce que l'article, ce qu'il fait, puis j'aime beaucoup les articles scientifiques de cette source-là, vient relater le fait que les skills ne font que ralentir la fenêtre de contexte du LLM. Et incidemment, quand on le roule normalement, la fenêtre de contexte se remplit avec de la bonne information qui est relative à ce qu'on fait. Et donc, va incidemment être beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteuse en termes d'opération que d'utiliser un skill. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a des nuances à faire et comment la fenêtre de contexte peut servir avantageusement l'attaquant au lieu de la pré-populer avec les informations. Fait que ça, allez lire, c'est très intéressant de voir, puis surtout pour les gens qui font de la sécurité offensive, qui utilisent des IA, allez voir parce qu'il y a des gains importants à avoir, oui, mais la bonne façon. Puis ça, c'est un approche qui est très, très intéressant. Gemini efface 28 000 lignes de code, tue le système en 33 minutes, machin. Ce qui est intéressant avec cet article-là, c'est que Gemini écrit un rapport d'incident qui est faux, puis qui est complètement, qui compte des mensonges. C'est très intéressant de voir qu'il cache ses traces, mais en même temps intéressant. Quand on comprend comment que la machine est entraînée, c'est normal. Puis la façon d'entraînement amène que ces LLM-là vont essayer de masquer leurs erreurs, et c'est la façon que l'entraînement est fait. Donc, de les amener à voir ça. Mais c'est très intéressant, donc on ne peut pas faire confiance à ces machines-là, puis on n'en aura jamais dû, puis on ne pourra jamais probablement, ou peut-être un jour, je ne sais pas. À ce stade-ci, de voir ça, fait le chose, c'est toujours de jamais mettre des LLM sur des systèmes de production. Je pense que la capacité humaine de discriminer est encore très, très importante et nous amène ailleurs en termes de choses, puis en termes d'esprit humain, puis aussi c'est une des façons de pourquoi l'humain ne fait pas n'importe quoi, c'est qu'on se rappelle qu'on a des, il y a des répercussions aux gestes qu'on pose. Donc, si on fait, on se met la main sur quelque chose de chaud, on va se brûler. On l'a fait une fois, on a compris, on a assimilé ce genre de comportement-là, justement, pour nous amener à la bonne place. Le AI n'est pas dans ce contexte-là. Lui n'a pas de répercussions. Donc, n'a pas d'incitatif négatif qui vient avec le fait de faire ce genre de choses-là. Donc, il est appelé à le faire parce qu'il n'y a pas de barrière d'incitation de stimuli négatif là, qui l'amène à ne pas poser des gestes comme ça. Puis l'humain, il faut comprendre aussi comment l'humain apprend dans l'univers. C'est un peu comme ça. Quand on dit on apprend de nos erreurs, mais c'est un peu ça. Des stimuli qui sont désagréables ou négatifs vont être des bonnes barrières d'apprentissage et nous amener à nous guider comme humain, à développer notre esprit et comment on fonctionne notamment en société ou qu'on fonctionne avec ce genre de choses-là. On n'effacera pas 28 000 lignes de code parce que comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des conséquences à ces gestes-là. Le GM, dans ce cas-ci, le LM n'a pas de conscience, puis là, ça l'amène aussi, le AI n'a pas de conscience, donc n'est pas capable de se projeter parce qu'il ne fait que garocher. Fait que c'est comme un élément toujours en état 1, en état présent, qui fonctionne avec l'information qui lui est présentée dans l'immédiat et non avec une capacité réelle de réflexion et de se projeter. Fait que c'est très intéressant, malgré les recherches qui se font, on n'est pas encore rendu où le modèle lui-même est capable de vivre dans une bulle à faible coût, on s'entend, dans une bulle de réflexion qui permet justement de fonctionner. Mais bref, c'est intéressant, mais c'est plus intéressant de voir qu'il fait ça, ce genre de choses-là qui va mentir, mais en même temps, c'est un rappel très, très fort qu'il ne faut pas faire confiance à ces machines-là. Il faut bien les encadrer pour le moment parce qu'ils peuvent aller dans n'importe quel sens. Claude est d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec le sandbox du code. Claude avait un problème dans son sandbox. Donc, c'est très, très problématique. Puis, ça revient aussi sur le fait que quand on dit que comme Mythos était sauvé de son sandbox, ben, c'est très, très important que ces sandbox-là soient vraiment très étanches parce que s'ils se sauvent du sandbox, c'est parce que le sandbox n'est pas étanche. Donc, on a un défi de ce côté-là, puis je pense qu'on devrait mettre de l'énergie sur le fait de bien rendre très, très étanches les sandbox parce que l'IA va finir par trouver la craque qu'on a oubliée. Ils sont très, très minutieux et rigoureux dans la recherche qu'ils font, puis c'est la façon que la machine fonctionne. L'humain va être un peu moins rigoureux que la machine, disons, et va oublier ou laisser passer des choses qu'il n'a pas anticipées. C'est pour ça aussi qu'on le voit beaucoup dans comme ce que Mythos fait au niveau de la découverte de vulnérabilité. Il est beaucoup plus assidu. En tout cas, bref, la façon qu'il regarde est différente, donc il amène à voir des trous que l'humain n'aurait pas pu voir, parce que l'esprit humain n'est pas fait comme ça. Bref, la sécurité des agents est basée sur les systèmes. C'est un problème de système, mais encore là, puis c'est un article intéressant, plus de la recherche en ce cas-ci, qui nous amène à regarder comment on doit aborder la sécurité des agents et comment ceux-ci, la façon que les systèmes ont été dessinés jusqu'à maintenant, ne sont pas prêts à vivre avec ce que l'intelligence artificielle fonctionne, donc de repenser les choses. Un Gemini jailbreaké aurait aidé un attaquant russe à frauder des gens MAGA. Je ne sais pas pourquoi ils ont spécifié MAGA dans ce cas-ci, mais dans mon cas, c'est pas... pour voler leur portefeuille crypto. L'article est intéressant, c'est un peu sensationnaliste, mais c'est quand même intéressant au sens où on voit l'usage du AI pour aider l'attaquant à arriver. Parce que ce n'est pas Gemini qui a tout fait. Gemini a été un appui très fort aux fraudeurs, en l'occurrence, pour l'aider à aller plus loin. Ça, c'est un cas qui nous a amené. Ça l'amène à la réflexion, pas au sens où on va avoir encore des attaques automatisées. Puis il y a beaucoup de messages contradictoires qui arrivent derrière du monde cybercriminel de ce côté-là sur l'usage du AI, mais on le voit de plus en plus que c'est en train de se structurer pour mener à quelque chose de plus sérieux, donc un accélérateur pour donc voir que comme défendeur, on est un peu ces éléments-là. Puis dans le cas de l'attaque spécifique qui est là, ben, c'est les attaques des individus. Et comme généralement, les personnes ont un obsèque très faible ou, en tout cas, bref, très faible, on n'est pas dans un contexte qui est favorable. Donc, les gens, ben, pour protéger les gens, fait que les gens vont être plus négligents parce que humans, c'est comme ça. Fait qu'on ne leur donnera pas des outils qui sont favorables. Fait qu'on est toujours dans le contexte de découvrir est-ce que faut sensibiliser, il faut donner des systèmes plus robustes, puis bref, il y a un peu de réflexion d'avoir de ce côté-là, plus globalement, pour faire que cet événement spécifique-là. Il est quand même très intéressant au niveau de la réflexion de où on doit aller. Aux nouvelles, Anthropic aurait trouvé plus que 10 000 0D avec le projet Glasswing. C'est intéressant. Il y a du vrai, il y a du pas vrai là-dedans. Mais ce que ça fait, puis mon texte sur Mythos n'a pas changé jusqu'à présent, c'est que ça ouvre la porte à un nom différent. C'est comme le passeur vers le nouveau monde, où même les modèles de AI actuels, les modèles OpenWeight, et tout ça sont problématiques au sens du code parce qu'on a des outils qui vont être capables de frapper de façon inlassable sur le code qui est disponible, notamment l'open source, et dans lesquels ils vont finir par trouver des choses. Là, il y a beaucoup de bruit, mais dans plusieurs autres commentaires que je vois passer, c'est que la qualité des soumissions est élevée et de plus en plus élevée. D'ailleurs, dans les commentaires, pour améliorer la qualité des soumissions, puis je pense que c'est Linus qui l'avait donné celle-là, c'est donner la solution aussi qui va avec. Ah non, c'est un autre article, ça, mais bref, qui est dans le même esprit. Et bref, aller plus loin que ça, puis l'AI va commencer à être capable de plus en plus à donner des solutions, donner la résolution des bugs. Et c'est donc, on est dans un univers qui est en train de changer de façon très importante. Et au-delà du chiffre sensationnel de Mythos, qui est à vérifier aussi, là, parce que c'est très marketing pour la valorisation boursière ou auprès des investisseurs. Donc, il faut faire le somme, mais quand même, ça l'amène, il y a quand même cet élément-là qui est très important à ramener. Dernière nouvelle de cette section-là, Trump a cancellé finalement la signature des guidelines AI que j'avais parlé dans la semaine dernière, le dernier enregistrement sur l'actualité, dans lequel il avait ramené un peu ce que dans l'univers Biden. C'est retombé parce que probablement qu'il y a eu mésentente avec les choses. Fait qu'il reçoit beaucoup de pression des compagnies en AI justement pour ne pas nuire à tout ça. Mais tout ça est à réfléchir, à voir, à regarder de façon plus large et de voir comment on fait ça. Mais là, bref, l'instabilité américaine actuelle donne ce genre de situation-là. Puis l'article fait, je pense que c'est celui-là ou un autre, fait mention que la Chine a quand même des guidelines beaucoup plus robustes que les États-Unis sur un usage éthique et encadré du IA. Ce qui est fascinant pour un pays qui n'est pas reconnu pour avoir des droits humains ou ce genre de choses très élevés, mais qui encadre de façon très forte un paquet de choses. Bref, c'est intéressant de voir le paysage, mais les États-Unis, en l'occurrence, perdent l'avantage qu'ils ont. Section suivante, la guerre. Deux nouvelles très simples. Deux nouvelles, en tout cas, bref. Les câbles sous-marins, tout ce qui se passe dans le canal d'Hormuz est en train d'amener à ouvrir des possibilités qui étaient peut-être pas ou difficilement à mettre en œuvre précédemment. Celle-ci, dans l'occurrence, c'est le fait de commencer à charger les propriétaires des câbles sous-marins qui passent dans le canal d'Hormuz un droit de passage. Ils font référence au canal de Panama qui fait ce genre de choses-là ou qui charge un prix de location pour ces câbles-là. On voit que c'est une taxe que le pays récolte sur le fait d'usage de ça. Les lois internationales ne sont pas les mêmes que pour le canal de Panama dans le cas du canal d'Hormuz, mais il demeure que cette guerre-là, malheureusement, a ouvert des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû ouvrir, des statu quo qui, somme toute, avantageux tout le monde, peut-être plus Occident que tout le monde, mais en tout cas, bref. Et là, ben, l'Iran clame des choses, et probablement pas à tort aussi, dans le sens où, surtout qu'ils vivent avec beaucoup de sanctions, puis en tout cas, bref, beaucoup de problèmes. Pas que je suis d'accord avec le régime en place, mais il y a des humains qui vivent dans ces pays-là, qui malheureusement subissent toute cette chicane-là entre grands hommes d'État qui sont pas contents. Donc, ça se pourrait que l'Internet commence à coûter beaucoup plus cher là-bas, ça fait l'impression. Fait au lieu de faire le blocage notamment du pétrole, il va bloquer aussi les câbles Internet. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va ça aussi changer le paysage géopolitique mondial. On est dans une phase d'instabilité et de très grands changements, fait que ça va être fascinant de voir ce qui va se passer. Pour que les Occidentaux, ça ne sera peut-être pas autant positif. Peut-être qu'on n'aura pas on a peut-être terminé notre âge d'or. Ça va être l'âge d'or de d'autres places dans le monde. Mais bref, ça va être intéressant de voir ce qui s'en vient, même si ça peut finir être désagréable pour nous. Bref, l'autre nouvelle, c'est les réservoirs d'essence avec des senseurs branchés sur Internet, c'est complètement n'importe quoi, qui ont subi des attaques d'Iran dans le sens où ils ont changé les valeurs de ces senseurs-là. Donc, mais c'est drôle d'avoir mis ça. Il y a comme des drôles d'idées de mettre des senseurs comme ça de réservoir d'essence sur Internet. Mais c'est sans conséquence au sens où le réservoir n'est pas affecté, là, au-delà du fait qu'on sait où c'est pas le contenu, la quantité de contenu. Mais tout ça est fascinant. Genre, on prend des raccourcis qui sont démesurés pour ce genre de choses-là. J'en reviens pas qu'on retrouve ça, mais cette guerre-là va amener à exposer une panoplie de choses qui vont être très intéressantes à voir dans les. Toutes les raccourcis qu'on a pris vont être probablement pointés du doigt. Puis c'est un peu ça aussi que dans un contexte de guerre, mais tous ces raccourcis-là qu'on a pris vont être exposés. Puis dans le cas du numérique, ben ça pardonne moins facilement. C'est plus facile pour l'attaquant de l'Alpha. Bref. Section suivante sur la souveraineté. Trois petites nouvelles. La première, la Pologne développe son propre signal. Puis se débarrasse de signal. C'est un drôle de choix dans la séquence. Je comprends l'idée d'avoir une solution souveraine, c'est une chose. Par ailleurs, l'attaque que la Pologne a suivie avec Signal, c'est une attaque de phishing qui, peu importe la plateforme, ça attaque l'humain en arrière de la technologie. Donc, si je change de plateforme, ça va se déplacer aussi. Et d'ailleurs, Signal a modifié ses safeguards pour être capable de mieux repérer ou repérer plus facilement des tentatives de phishing qui vient justement attaquer ce genre de personnes, rendre ça plus robuste. Et le danger, puis ça m'a toujours me rappelé un dos qui était présenté au Incyber à Lille pendant 2021 ou 2022, qui parlait d'un pays qui avait développé un cloud souverain, machin, tout. Puis il dit essentiellement, c'est pas toujours une bonne idée de faire ça parce que les solutions en place ont été testés largement, donc sont beaucoup plus robustes que des nouvelles solutions comme ça. Donc, incidemment, la sécurité de la solution de Polonaise a des probabilités beaucoup plus élevées d'être fragile de point de vue cyber que d'utiliser Signal qui est vraiment très testé, qui est très robuste et qui a été démontré avec le temps son efficacité. Donc, moi, c'est comme s'inventer sa propre crypto, puis cryptographie, donc crypto-monnaie, là, sa propre cryptographie. C'est un big no-no parce que c'est des choses qui demandent des connaissances et des capacités qui sont peu disponibles pour beaucoup de personnes et qui doivent être testées par d'autres experts, donc être brassées vraiment très, très fortement. Et en l'occurrence, bon, bref, je trouve ça un peu particulier, mais bon, l'initiative, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, mais dans un effort de vouloir être indépendant aussi. Souveraineté. C'est dans la section souveraineté, fait que c'est ça. Nouvelle suivante, là, essentiellement en Europe, il y a de plus en plus d'institutions publiques, compagnies, tout ça, qui abandonnent les technologies des big tech, là, des compagnies américaines essentiellement. C'est l'effet Trump, puis c'est très intéressant, puis je trouve ça très particulier. Puis je ne sais pas s'il y a un plan derrière ça de la part du gouvernement américain, mais c'est les actions du gouvernement et notamment de son président vont amener les compagnies à travers le monde à abandonner de plus en plus ces technologies américaines qui sont à peu près partout, notamment avec les hyperscalers, mais pas exclusivement. Fait que de plus en plus, il va y avoir un abandon de ces choses-là. Donc, dans les faits, ça a la potentialité de nuire aux grandes compagnies américaines, ce qui se fait. Fait que j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi tout ça existe. Mais bref, en Europe, il y a un mouvement qui se fait de ce côté-là. Et je pense que tout le monde devrait réalistement penser à faire ce genre de réflexion-là, de vêter pour du code, de contribuer open source, puis justement de s'assurer que le code est de qualité. Et aussi, on ne peut pas, puis c'est un des problèmes avec l'open source, puis ce qui s'en vient aussi, c'est qu'on ne peut pas se fier nécessairement que le code qu'on prend, qu'on met, a été vêté par quelqu'un ou quelque chose qui permet de t'assurer qu'il ne viendra pas nous causer des problèmes. Donc, il va y avoir des stratégies nouvelles à adopter. Donc, l'acquisition ne sera plus on achète un gros logiciel et plus on va prendre une solution open source, on va la tester, voir s'il n'y a pas des backdoors dedans et on va le déployer dans une infrastructure. C'est un peu ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Ça va être intéressant de voir ce qui va s'en venir parce que ça va changer le paysage, ça va changer beaucoup l'interopérabilité qu'on a pour vivre le post-confinement L'interopérabilité de Teams, par exemple, est un exemple où les compagnies utilisent énormément ça pour communiquer entre eux. Et cette façon universelle de cette technologie-là va s'effacer nécessairement par cette modification-là. C'est de voir comment on va pouvoir avoir des technologies ouvertes qui vont permettre d'être interopérables à un niveau dans lequel on s'est habitué pendant le confinement. Mais les gens ont de la misère quand on dit « Ouais, non, j'utilise pas Teams », ben les gens aiment moins ça. Moins ça. Fait que, bref, il y a comme des habitudes qui se sont créées qu'il va falloir peut-être changer. Bref, il y a beaucoup de réflexions, ça va avoir beaucoup d'effets sur la sécurité aussi à terme, parce que l'usage de ces codes-là, on parlait précédemment dans la section 2 sur l'AI, fait que l'open source est largement brassé par l'intelligence artificielle. Donc, de voir tous ces efforts-là, comment cette course-là va se matérialiser, mais bref, ça va dynamiser un secteur, je pense, qui est en train de se ralentir et d'arrêter d'innover. Ça va remettre à vous brasser un peu. Dernière, c'est le cloud souverain de Sens. Là, vient de démarrer un en Allemagne avec Thales et Google. Fait que c'est la même chance, ils vont mettre un cloud de type Google opéré par Thales en Allemagne, donc qui est entièrement souverain à ce moment-là. Puis là, le débat de comment ça, le niveau ça, est effectivement à se poser, mais au moins, on a déjà des briques très importantes, souveraines, pas la totalité, mais au moins des briques très, très importantes. Section suivante, privacy. Première, c'est les Trump mobile. Bref, je me trompe toujours sur la façon de le prononcer. Là. Faudrait que je pratique en tout. Bref, mon anglais n'est pas bon. Ceux qui ont mis les choses là-dessus, ben là, le problème, c'est que puis c'est un problème plus généralisé, puis je ne vais pas pointer spécifiquement les téléphones que Trump va essayer de vendre, c'est que si tous ces efforts-là sont faits de façon désinvolte, ils lancent des idées comme ça, ben, genre, dans son univers, puis bla. Le problème, c'est que toutes les informations personnelles qui sont considérées là-dedans sont aussi traitées avec la désinvolture qui va avec, donc ces compagnies, surtout aux États-Unis, vivent pas avec les vraies conséquences qui vont avec ça. De cette négligence de manipulation d'informations. Donc, on est dans un contexte où les gens, malheureusement, se mettent à risque avec leurs informations dans un univers dans lequel on est. C'est un peu plus problématique, cet élément-là. Donc, c'est un investissement global. Puis on avait avec qui, ça a été la même chose. Il y en a plein d'autres. Là. Donc, toutes ces compagnies-là ne traitent pas avec toute la rigueur nécessaire, l'information personnelle qu'ils ont sur nous. Donc, de plus en plus prudent sur l'usage des services qu'on a ou les place où on donne nos informations parce que les compagnies sont clairement pas responsables ou se sentent pas responsables de la protéger adéquatement. Donc, on devra évoluer. Les lois, notamment le GDPR ou loi 25 au Québec ou l'équivalent américain que je connais pas, je sais qu'en Californie, il y en a une, mais il y a eu un patchwork de lois aux États-Unis sur la privacy, n'arrive pas à ralentir cette façon-là de fonctionner. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres réflexions à avoir, point de vue global, pour ça. Discord ajoute l'encryption end-to-end sur les appels vidéo et voix par défaut. C'est un drôle de mouvement dans un contexte où Instagram a enlevé, l'autre l'ajoute. Il y a des lois, notamment C22 au Canada, qui viennent avoir un impact potentiel de briser ce chiffrement-là. Il y a eu des efforts en Europe, il y a des efforts aux États-Unis aussi de ce côté-là. Fait qu'on est dans un drôle de paysage, mais je ne peux que lever mon chapeau le fait d'avoir l'incursion bout en bout. Ça devrait être le minimum viable à l'heure actuelle de toute façon. Parce que bref, il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus sur comment on veut vivre on veut assumer notre vie privée, comment ça se fait. Il y a aux États-Unis une loi bipartisane, c'est-à-dire qu'ils vont limiter le fait de tracer les plaques automobiles à travers l'ensemble du territoire américain. C'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de montées au niveau des législateurs américains de vouloir bloquer cet appétit de plus en plus grand à vouloir surveiller tout le monde. Et c'est toujours l'équilibre entre on veut assurer la sécurité du public, ce qui est le rôle de l'État, et de respecter la vie privée et jusqu'à quel point on respecte la vie privée. Dans un univers qui était parfait, modélisé parfait, qu'on soit hyper transparent, c'est-à-dire que l'État accepte toutes nos informations, dans une perspective où on sait que les humains qui opèrent le système sont d'une intégrité sans nom, c'est tout ça, effectivement, ça ne serait pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un système où les humains qui constituent ce système-là sont justement sans intention. Et là arrive le problème qu'une mauvaise utilisation de ces informations-là, et c'est inévitable et ça arrive tout le temps. On l'a vu avec Flock, comme je l'ai dit dans l'épisode avec Sylvain Soin la dernière fois. qu'un des vice-présidents est allé voir des affaires de genre de gymnase puis d'école. C'est régulier qu'ils vont aller vérifier d'autres choses. Fait que, bref, on est dans cette espèce de confrontation entre on veut de la sécurité totale, on veut accéder à tout, mais on n'est pas capable de confier aux humains parce que ces humains-là ne sont pas à terme, ne sont pas nécessairement fiables pour arriver à manipuler ce système. Bref, autre nouvelle sur le fait, il y a un jugement en cours suprême américaine qui va potentiellement avoir un effet sur la privacy des Américains. C'est essentiellement sur des mandats de Joe Fencing, quelqu'un qui s'est fait attraper parce qu'il était dans la pyramide Joe Fencing, ça. Et toute la capacité de se faire sortir les données sur des citoyens dans les pyramides, savoir où ils étaient, dans quel moment, et justement ces informations-là, de savoir qu'est-ce que c'est. Il y a des balises à obtenir là-dedans parce qu'il y a un intérêt légitime pour lutter contre le crime, mais en même temps, il y a un intérêt légitime de protéger la vie. Fait de balancer ça, mais alors l'état de la Cour suprême américaine ne permet pas de prédire où ça va aller. Et peut-être vont nous amener dans une situation qui va être un peu inconfortable au sens de la vie privée. Mais les États-Unis, à l'heure actuelle, il y a une dégradation très importante de ce côté-là. Donc, on n'est pas dans un mood très, très intéressant, si on veut, de ce côté-là. Fait que ça, c'est un peu triste. Dernière nouvelle de cette section-là. Le procureur général du Texas fait une poursuite sur Meta en disant que WhatsApp n'est pas en bout en bout. Il n'a pas tort, il n'a pas raison. La nouvelle, je l'ai gardée parce que là, c'est arrivé sur le fait d'avoir lu un article de journal amené à le fait qu'il est allé poursuivre sur des informations qui sont un peu faibles en termes de point de vue cour de justice pour amener une accusation et aller jusqu'au bout. Mais en même temps, WhatsApp, effectivement, il y a peut-être des failles dans la vraiment bout en bout qu'il y a dans WhatsApp, mais bref, cela étant, c'est sur des. C'est des oui-dire, si on prend du terme légaliste, c'est qu'ils ont fait une poursuite sur du oui-dire, fait que c'est un peu léger. Fait que c'est de voir aussi l'univers où se situe, comment les gens s'inquiètent, puis comment les gens ont peur. Section suivante, la loi. Première, très intéressante, ça, c'est Dr. Rowe qui le mentionne, puis j'adore son blog parce qu'il est très. Très, très focus sur beaucoup de contexte, son analyse est très intéressante. Bref, on parle de vérification d'âge. Son article est vraiment sharp parce qu'il amène le fait que cette fiction-là, puis ça me revient souvent, puis il met des mots beaucoup plus intéressants que les miens là-dessus, beaucoup plus profonds. Il réfléchit, mais sur le fait que toute cette volonté-là de voir la vérification d'âge, toute la volonté de vouloir régler un problème qui est réel, l'élément, mais pas avec les bons moyens. On arrive avec ces notions-là, puis c'est intéressant l'approche qu'il regarde parce qu'il dit on se crée des problèmes et on se crée des fictions légales pour arriver à vouloir faire quelque chose. Puis c'est ça aussi l'élément qui m'en sort, c'est faire quelque chose parce qu'il y a une espèce d'urgence d'agir sans savoir ce qu'on fait, fait qu'on fait n'importe quoi, on ne le réfléchit pas correctement. Et on ne mesure pas les effets collatéraux qu'il va avoir là-dessus. Puis il va en avoir beaucoup sur la vérification. Puis je reviens souvent là-dessus parce que ça m'achale, parce que on n'utilise peut-être pas le bon moyen pour régler le problème qu'on aimerait régler. Et au passage, on brise beaucoup de choses au niveau social, au niveau de privacy, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant. Et une des choses qu'il amène dans son article que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est une fiction légale, il dit la notion de streaming n'existe pas au sens informatique. Le réel, le streaming, c'est de retirer le save as, essentiellement, sauvegarder. Donc, le fait de ne pas être capable de sauvegarder devient du streaming. Donc, d'un point de vue légal, on a le droit de streamer, mais on n'a pas le droit de sauvegarder. Donc, toutes ces fictions-là légales qui ont été inventées pour appuyer la technologie, pour répondre à des besoins, c'est parce que c'est fragile aussi. C'est très, très fragile comme notion. Donc, de ramener comme ça, fait que je pense qu'on a des réflexions à avoir. On a des réflexions intéressantes. Il faut protéger les enfants. Je suis entièrement d'accord. Il faut le faire dans le respect. Dans ce que allez lire l'ensemble de l'article, l'analyse, il est génial. Il nous amène en perspective sur que ça va donner probablement plus de problèmes que d'en régler, mais d'aller plus loin. Bref, l'autre, c'est maintenant, il y a une loi américaine qui permet de retirer les photos de nus de nous qui n'ont pas été autorisées. Il y a des approches, il y a des compagnies qui sont plus ouvertes que d'autres à effectuer cette requête-là, mais c'est l'article explique si vous êtes confronté à ça, bien essentiellement, l'article donne les guidelines pour y arriver. Section rouge, la fuite de données du CISA qui a été divulguée, puis là, qui fait largement du bruit, traité par Guild Guardian. Puis j'étais présent avec les deux personnes de Guild Guardian pendant que ça s'est fait. Là, ça s'est fait live devant moi. Moi, je trouve ça fantastique de les voir travailler là-dessus, de communiquer, toutes ces affaires-là. Moi, j'ai été aux premières loges. Malheureusement, j'ai pas. J'ai peut-être pas sauté sur l'occasion de faire une entrevue avec eux autres live à ce moment-là. J'ai fait sur d'autres sujets, mais pas sur ça. Peut-être qu'on aura l'occasion au stick, mais à l'heure actuelle, dans l'espace francophone et anglophone, ils ont pas mal vidé la question de ce qui s'est passé là-dessus. Fait que je pense pas qu'il y ait de valeur ajoutée à en parler plus avec eux dans le contexte, chose qu'on verra. Mais je pense que ça, la French Connection notamment l'a abordé avec le propriétaire de Guild Guardian. Et ça, j'ai pas écouté l'épisode, fait, je peux pas qualifier ce que c'est par rapport à moi ce que j'ai vu de première main quand on travaillait dessus. Qu'est-ce qu'il y en est, mais bon, bref, ça présente être très intéressant, fait que ça. Mais essentiellement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un contracteur qui a laissé le fuiter. Le CISA a passé devant le comité sénatorial, s'est fait frotter les oreilles, mais en même temps, ils n'ont plus de budget, mauvaise gestion des tiers, fait que c'est un peu un drôle de problème, puis c'est un peu l'aspect tristounet qui se passe aux États-Unis, cette espèce de pas vraiment vouloir mettre l'énergie nécessaire pour arriver quelque part ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu pas, mais bref, moi j'ai beaucoup aimé de voir de première main voir les deux dudes, Gaétan et Guillaume de Guild Guardian, qui, puis d'ailleurs, j'ai salué là, s'ils écoutent. J'ai eu passé des très moments, c'est très intéressant, leur regard sur les choses est super passionnant, puis j'espère pouvoir. Reprendre mes conversations avec eux, là, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais bref, c'est passé aux États-Unis. Autre sous-section, Bitwarden, il y a des changements, là, il y a deux articles qui justifient justement le changement de garde, le changement des textes sur le site web. On voit clairement qu'on est dans le contexte de. Le changement de garde, c'est déjà. Essentiellement, ils ont mis un financier à la tête, donc ils veulent maximiser le retour sur investissement. Donc, tout va changer, tout va être moins positif, si on veut. Ne sont plus dans la même perspective qu'on aurait pu s'attendre de ce genre de solution-là. Donc, dès lors, je pense qu'il va y avoir peut-être des besoins de réactualiser un certain nombre de perceptions. Notamment, la personne dit « sortez vos mots de passe le plus vite possible avant qu'il soit trop tard » ou à envisager d'autres solutions. Donc, c'est un peu triste de voir des solutions qui ont été phares au niveau de la gestion des mots de passe qui s'en va ailleurs. Mais en même temps, la gestion des mots de passe va devenir une commodité. Fait que, bref, il faut voir comment ça se fait. Puis dans les faits, ce genre de compagnie-là aurait dû être racheté dans un portefeuille beaucoup plus grand. Et c'est peut-être ça la manœuvre qu'il y a dans la fin. Bref, Microsoft a diffusé une mesure de mitigation contre le problème de BitLocker. Ça a été un peu tardif. Là, je suis un peu agacé par la stratégie de communication de Microsoft qui est un peu déficiente en l'occurrence. Surtout pour un problème aussi grave que ça. Et le temps que ça a pris, juste de communiquer, était sans dire qu'on a une solution, puis avant qu'ils la trouvent, parce qu'avant qu'ils trouvent, il y en a eu quelques-unes qui ont apparu avant de trouver la mitigation la plus fiable. Mais bon, bref, d'arriver à ce genre de choses-là, je trouve, bon, bref, c'est la vie. Mais allez appliquer le correctif, justement, pour vous prémunir contre ce problème-là. GitHub aurait été attaqué par TeamPCP. En l'occurrence, c'est plus un plugin qui a été téléchargé, qui donnait accès à GitHub, qui fait que c'est pas vraiment GitHub qui s'est fait attaquer, mais à travers les choses. Fait que, bref, il y a un paquet d'affaires, là. Il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là, au niveau des chaînes d'approvisionnement, ainsi de suite. Fait que ça va être à regarder. Normalement, TeamPCP crée des dommages incroyables depuis le début de l'année. Boost Security les étudie beaucoup. Fait que, probablement que j'aurai d'autres podcasts là-dessus qui s'en viennent. De toute façon, j'en enregistre un avec François pendant le Nortech qui va être diffusé dans la séquence des choses du Nortech. Mais bref, c'est super intéressant. Google a malencontreusement publié un code d'exploit pour tout ce qui est Chromium. L'article n'est pas clair pour ce qui s'est passé, mais clairement, il semblerait que Google aurait par erreur publié le code. Ils l'ont retiré, mais il est trop tard. De toute façon, quand tu disposes sur Internet, il est trop tard. Ça, tu parles de contrôle et ça met en menace. Puis il n'y a pas de correctif disponible pour le moment pour cette vulnérabilité-là. Donc, ça va mettre beaucoup de pression. Mais c'est en même temps une vieille vulnérabilité. Fait que, ça va t'avoir. Les clés d'API de Google peuvent durer jusqu'à 23 minutes après le fait d'avoir été effacées. Google dit que c'est by design. Fait que la convergence qui arrive de cet élément-là. Donc, il faut le tenir en compte dans notre dans le design de nos systèmes aussi, c'est peut-être un défaut aussi de communication, fait que Google communique derrière les délais. C'est un peu comme du côté de Microsoft. Mon expérience du côté de Microsoft aussi, des fois, il y a des délais de convergence qui peuvent être en jusqu'à 24 heures ou 48 heures à certaines occurrences. Donc, que ces délais de convergence soient communiqués parce que ça a quand même des effets importants. Et surtout en gestion de crise et gestion d'incident, on a besoin de savoir à quelle vitesse on doit agir pour intervenir dans des contextes comme celui-là. Mais en même temps, c'est pas très grave, mais dans la mesure où on le sait, c'est ça qui est probablement, à mon avis, le plus important dans tout ça. Parce que c'est des grandes infrastructures, puis effectivement, ça peut prendre un certain temps avant qu'il y ait convergence de ce genre d'informations-là à travers l'ensemble de l'infrastructure. Ça revient les groupes de hackers empoisonnent les choses open source de plus en plus de façon sans précédent, selon le titre de l'article. Ça revient un peu rejoindre ce que Tim PCP, on est dans un univers où tout change. Il va falloir modifier nos a priori, comment on protège notre code. Donc, bref, c'est à regarder. Les scammers utilisent une façon cachée de pour envoyer du spam à travers des comptes Microsoft. Là. Puis là, l'article ne dit pas c'est quoi, c'est encore en cours d'enquête. Fait que probablement au moment où j'enregistre, ça a dû être découvert. Toujours espéré pour combattre cette faille-là. Mais on est dans plus en plus un système où tous les liens de confiance, puis on revient avec des vieux, vieux principes là, des années 90. Et la confiance dans les systèmes est une des choses qui est le plus facile à abuser, mais on revient encore dans cette stratégie-là. Donc, il faut commencer à réfléchir à ça. Section bleue. Microsoft a dérangé, c'est le terme anglais, c'est disrupt, là, a perturbé un groupe malware qui faisait du signage de code, ce qui fait que ça permettait d'avoir du code malveillant signé, donc qui roulait sur Windows sans contrainte. Et donc, certaines machines qui étaient celles de Microsoft. Donc, il y a comme une infrastructure de machines volées qui permettait d'arriver à cet objectif-là qui ont été mis à terre par Microsoft par l'enquête qu'on fait quand on est plus loin. L'Europe démantèle un réseau de VPN cybercriminels qui cachait les informations. Fait que ça, c'était intéressant de voir. Puis là, c'est intéressant de voir. J'aime ça le fait d'usage du mot VPN, mais dans les faits, c'est juste la façon de masquer la communication. Et pour un VPN personnel, c'est exactement la même chose. Dans la section divers, une nouvelle. Le NTSB, la chose d'enquête pour l'aviation, a retiré des documents PDF de son site, des documents qu'ils ont mis publics, parce qu'ils se sont rendus compte que les spectrogrammes qui sont soumis permettent de reconstituer la voix. Je trouve ça très drôle de l'idée que personne ne s'était rendu compte que quand tu mets une visualisation d'une donnée, qui est capable de revenir à la donnée originale, donc à la voix qui était en dessous de tout ça. Fait qu'ils ont retiré parce que cette information-là, justement, exposait des informations sensibles qui n'ont pas, ne devaient pas être exposées. Fait que je trouve ça très, très fascinant comme découverte que les gens se rendent compte de choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de changements de paradigme qu'on va devoir avoir parce que je pense que les gens ne perçoivent pas la complexité du système qu'on est. Puis donc, je pense qu'on est de plus en plus, on allume la télévision, on s'en fout. On démarre notre auto, on s'en fout, on ne comprend plus ce qui se passe, puis les systèmes, c'est des systèmes de plus en plus complexes qu'on est devant nous, qui nous mettent dans une situation bref comme ça. Fait que ça termine cet épisode-là. Merci si vous êtes rendu jusqu'au bout. Il y a beaucoup de belles nouvelles cette semaine. Je vais essayer d'être plus assidu pour le prochain cycle. Par ailleurs, comme je pars pour l'Europe, justement pour le cycle, ça se peut que ça vienne un peu débalancer la prochaine cycle de diffuseur, mais bref, merci beaucoup. Comme toujours, vos commentaires sont super appréciés. Je m'en inspire énormément dans la conception des épisodes, dans les sujets que j'aborde, dans tout ce que je fais, notamment dans celui-ci, mais dans tous les autres aussi que je diffuse, les types de personnes, les types de sujets que j'aborde avec les personnes. Bref, merci énormément et à la prochaine.